السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. On s'est arrêté la dernière fois, toujours à la bataille de Uhud. Et la dernière fois, on s'est arrêté au moment où il y a eu une série de duels qui concernaient particulièrement les Bani Abdiddar parmi les idolâtres, parce que ce sont eux qui portent l'étendard. Et on a dit qu'en quelques instants, 10 personnes de la tribu des Bani Abdiddar, en quelques instants, vont perdre la vie pour défendre l'étendard à travers des duels, des tête-à-tête. On a tout d'abord le duel qui a été authentifié dans Sahih al-Bukhari entre le compagnon Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu et l'idolâtre Siba ibn Abd al-Uzza, qui est venu défier les musulmans, et c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib qui répond à son défi. Ensuite, on avait déjà parlé il y a quelques semaines du duel qui a eu lieu entre le compagnon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et Talha ibn Uthman, qui était venu avec un ton provoquant et en disant: c'est vous qui prétendez que vous nous, soit vous nous précipitez en enfer avec vos épées, soit c'est nous qui vous précipitons au paradis avec nos épées. Eh bien, qui d'entre vous oserait me défier pour que soit je le précipite dans son paradis avec mon épée, soit il me précipite en enfer avec son épée. Non. Et c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui va répondre et qui va le tuer. Après ça, on a parlé de Talha ibn Abi Talha al-Abdari. On a dit Talha ibn Abi Talha al-Abdari, c'est un notable, c'est un chef de la tribu des Bani Abdiddar, et il est venu à la bataille de Uhud avec ses deux frères, ses trois fils et sa femme. Et au moment où il brandit l'étendard et qu'il vient avec l'étendard et qu'il provoque en duel les musulmans, il ne sait pas encore non seulement qu'il va perdre la vie, mais qu'en quelques instants juste après lui, c'est deux frères et ses trois fils vont perdre la vie. Et donc Talha ibn Abi Talha va venir sur un chameau et il va dire: qui d'entre vous oserait me défier? Et lui, c'est Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu qui va même pas lui laisser le temps de voir quoi que ce soit. Zubayr ibn al-Awwam, il va lui dire: moi. Et en quelques instants, il arrive en courant il bondit sur le chameau, il le fait tomber du chameau et il l'achève à terre. Yani. Ensuite, voyant cela, son frère, Abu Shayba, Uthman ibn Abi Talha al-Abdari, va s'avancer, prendre l'étendard, hein, et il va lui aussi défier en duel. Et lui aussi, il va mourir là, il va se faire tuer. On n'oublie pas que si les Bani Abdiddar font preuve d'autant de courage, c'est aussi parce qu'Abu Sufyan a tenté de faire d'attiser leur fierté, leur orgueil, leur prétention, lorsqu'il s'était présenté à eux avant le début de la bataille, avant le début des duels, et qu'il leur a dit « Vous, les Bani Abdiddar, c'est vous qui portez l'étendard. Et la dernière fois, la bataille de Badr, on a perdu. Et quand on perd, c'est à cause de l'étendard, des porteurs de l'étendard. Et quand on gagne, c'est grâce aux porteurs de l'étendard. » Et ici, donc les Bani Abdiddar, les uns après les autres, et surtout cette famille, les Banu Abi Talha, les enfants de Abi Talha et les petits-enfants d'Abi Talha, chez les Bani Abdiddar, ils ont pris l'étendard les uns après les autres et ils se sont fait tuer les uns après les autres pour défendre cet étendard. Et sans aucun doute, même s'ils combattent pour le faux, pour, dans le mensonge, etc., l'idolâtrie, il ne fait aucun doute que sa force, l'admiration, yani, cette bravoure et ce courage. Et donc, Abu Shayba Uthman ibn Abi Talha veut honorer l'étendard et tout de suite venger son frère qui vient d'être tué. Mais lui aussi, il va être tué dans ce duel. Et donc, son autre frère, Abu Sa'd ibn Abi Talha, va se présenter aussi, lui aussi, avec l'étendard. La même chose. Il est tué dans le défi, dans le duel qu'il a lui-même réclamé. J'avais juste oublié de préciser que dans tous ceux qu'on a cités, ils ont tous été tués, sauf Talha ibn Uthman. Le duel qui a eu lieu entre Ali ibn Abi Talib et Talha ibn Uthman, il l'avait gravement blessé, mais comme il était à terre et qu'il avait perdu son habit dans la bataille et qu'on voyait ses parties intimes, quand Ali ibn Abi Talib s'est approché pour l'achever et qu'il a vu qu'il a été dénudé à cause du coup qu'il a reçu, et qu'en plus, il l'a imploré lorsqu'il était à terre, il lui a dit « Unashiduka Allah wa rahim ibn Ammi. » Je t'implore, je te supplie par ce qui nous lie. Je te supplie et je t'implore par Allah et par ce qu'on a de lien de parenté, ô mon cousin. Ah, il l'a appelé cousin. Naam, comme les jeunes aujourd'hui, hey, cousin. Naam. Pourquoi ? Pour avoir la vie sauve. Et donc quand les compagnons ils vont lui dire « Pourquoi tu lui as laissé la vie sauve ? Pourquoi tu ne l'as pas achevé ?» Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il va dire « J'ai eu honte. D'abord, il m'a imploré par Allah et par les liens de parenté. Et il m'a appelé cousin. Et en plus, j'ai eu honte lorsque j'ai vu que sa nudité a été dévoilée. Et donc, je ne peux pas comme ça, yani. Non. Pas dans cette situation-là. Donc, je lui ai laissé la vie sauve. Ensuite, après ça, donc on a dit, il y a eu Siba ibn Abdul Uzza avec Hamza ibn Abdul Muttalib. Et pour rappel, dans tous les duels qu'on est en train de voir, le seul qui a été authentifié, c'est celui-là. Celui qui a eu entre Siba ibn Abdul Uzza et Hamza ibn Abdul Muttalib, radiyallahu anhu. Ensuite, on a parlé de Talha ibn Abi Talha, qui est venu à la bataille de Badr avec sa femme, ses deux frères et ses trois fils. Il perd la vie dans le duel qu'il réclame. Ensuite, son frère, il vient... C'est Abu Shayba Uthman ibn Abi Talha. Lui aussi, il perd la vie dans le duel qu'il réclame. Ensuite, leur frère également, Abu Sa'd ibn Abi Talha, et il perd la vie dans le duel qu'il réclame pour venger ses frères. Et là, maintenant, on a qui ? On a le fils de Talha ibn Abi Talha. Son fils, Musafir, ibn Talha ibn Abi Talha. Il vient pour venger son père et venger ses deux oncles. Et pour honorer l'étendard. Et il réclame un duel. Et lui aussi, il meurt. Et tout ça se passe en quelques instants. Et donc, il faut imaginer aussi ce qui se passe dans les deux armées. Il y en a un qui réclame le duel, l'étendard monte en l'air et il tombe tout de suite. Et ensuite, l'autre, il vient, il brandit l'étendard, il réclame et il tombe. On a d'un côté les idolâtres qui voient l'étendard être élevé dans le ciel et tomber, et les leurs tomber les uns après les autres. Et on a de l'autre côté l'armée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui voit, alors qu'ils sont trois fois moins nombreux, beaucoup moins armés, beaucoup moins préparés, ils voient, mashallah, malgré qu'ils sont moins nombreux, moins puissants, que les leurs, yani, ne reculent devant rien. Et donc, le fils, il est tué dans le duel qu'il réclame, Musafir ibn Talha. Ensuite, on a son frère qui vient et qui réclame également le duel avec l'étendard, et lui aussi il est tué, son frère Kilab ibn Talha, ibn Abi Talha. Et enfin, le troisième et le dernier des fils, c'est Julas ibn Talha, ibn Abi Talha al-Abdari, et qui lui aussi est tué. Et ensuite, on a cité trois autres qui ne sont pas de cette famille-là, mais qui font aussi partie de la tribu des Bani Abdiddal, qui aussi vont essayer de venir honorer. Voilà, il y a toute une famille qui a été décimée. Montrons-leur, nous aussi, qui faisons aussi partie de la tribu des Bani Abdiddal, de quoi on est capable. Et surtout, maintenant, ça suffit. Assez de morts dans notre camp. Il faut qu'on retourne la balance, que les morts soient de leur côté. Et donc là, on a Arta ibn Shurahbil qui va venir et qui lui aussi va être tué dans le duel. Ensuite, on a Shurayh ibn Qarid qui lui aussi va être tué dans le duel. Et enfin, Shurahbil ibn Hashim qui va être tué dans le duel. Et on a dit que parmi le camp des musulmans, on avait cité deux personnes. On avait cité plusieurs compagnons, Hamza, Ali, Saad ibn Abi Waqqas, qui ont participé au duel. Ce sont tous des compagnons. Sauf qu'on en avait cité deux personnes. Alors le premier, c'est un compagnon. Le deuxième, c'est... Le professeur Hassan disait à son sujet, il est mort, il fait partie des gens de l'enfer. Alors qu'il est dans le camp de l'armée des musulmans, il a même répondu à deux duels. Et après, il va dans la bataille. On raconte qu'il va affronter sept idolâtres qu'il va tous décimer. Et pourtant, le professeur Hassan dit à son sujet, il fait partie des gens de l'enfer. Rajib. Et on a expliqué que le professeur Hassan va demander à ses compagnons d'aller vérifier ce qu'il est advenu de lui. Il est surnommé Qozman. Et quand ils vont aller le voir, ils vont le trouver en train d'agoniser. Parce qu'il s'est vaillamment, il s'est vaillamment battu. Il a même tué 9 idolâtres. Mais il est gravement blessé, mortellement blessé, puisqu'il va mourir, il va finir par mourir. Mais il va mourir comment? Il se sait mort. Et donc, quand les musulmans le trouvent et qu'ils lui expliquent la fin de la bataille, comment ça s'est passé, que finalement ils ont perdu, et ils vont lui dire, mais félicitations à toi, tu t'es bien battu. Il va dire, oui, mais moi je ne me suis pas battu comme vous. Moi, je me suis battu par fierté, c'est tout, par ostentation. Pas comme vous. Pas pour Allah et son messager. C'est pour ça que beaucoup disent qu'il faisait partie des hypocrites. Et subhanallah, donc, qu'est-ce qu'il va faire, Qozman? Il n'en pourra plus de ses souffrances et donc il va mettre fin à sa vie. Il va se suicider sur place. Et quand les compagnons vont rapporter ça au professeur Hassan, le professeur Hassan va dire « Ashhadu anni Rasulullah ». J'atteste que je suis le messager d'Allah. Ça, c'est Qozman. Et l'autre compagnon dont on avait parlé, sur lequel on s'était arrêté un petit peu, c'était Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah, qui lui va répondre à deux des duels parmi les trois fils de Talha ibn Abi Talha. Il va répondre au duel de Musafir ibn Talha et de Al-Julas ibn Talha. Mais un des deux va être gravement blessé, mais il ne va pas mourir sur le coup. Quand sa mère va le récupérer, elle va lui dire « Qui t'a fait ça ?» Il va dire c'est Thabit Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah. Et qui a fait ça, ton autre frère? Il va dire Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah. Et ton troisième frère? Et là, il va mourir, il ne va pas répondre. Nous, on sait, selon les textes, que ce n'est pas Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah qui a tué le troisième, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a tué deux. Et donc, pour cette mère, on avait expliqué qu'elle va mettre sa tête à prix. Elle va mettre une rançon sur sa tête et elle va dire, elle va jurer par les divinités, par leur fausse divinité, elle va dire, je jure que plus jamais je ne trouverai la tranquillité et je ne sortirai de mon deuil que lorsqu'on me ramènera le crâne de Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah pour que je prenne son crâne, que je verse dedans du vin que les musulmans veulent nous interdire et que je boirai dedans ce vin. Comme le jahiliya, les barbares. Les sauvages. Et des gens de la tribu des Bani Hudayl, quelques années plus tard, vont réussir à assiéger un groupe de compagnons, parmi lesquels il y a ce compagnon dont la tête a été mise à prix par cette femme. Et donc il ne se laissera pas faire, et il va finir par être tué. Mais lorsqu'ils voudront prendre, le décapité pour prendre la tête, puisque c'est la tête qui a été mise à prix, il va être protégé par des abeilles, par une nuée d'abeilles qui viennent attaquer tous ceux qui s'approchent de son corps. Et donc, cette tribu des Bani Hudayl, ils vont dire, bon, pendant la nuit, les abeilles, elles rentrent dans la ruche. Donc, rentrons, partons, et revenons cette nuit pour prendre la tête et la donner à cette femme qui la réclame. Sauf que lorsqu'ils reviendront le soir, le corps ne sera plus là. Sachant que ce compagnon, radiyallahu anhu, de son vivant, lorsqu'on va lui dire que cette femme elle a mis sa tête à prix, elle a mis une rançon sur sa tête, il va jurer par Allah, il va dire je jure par Allah que je ne laisserai plus jamais aucun idolâtre s'approcher de moi et je ne m'approcherai plus d'aucun idolâtre. Donc de son vivant, il a respecté son serment. Il n'a pas laissé les idolâtres s'approcher de lui et il ne s'est pas approché d'eux. Mais à sa mort, il ne peut plus, rien faire. Ce n'est plus lui qui gère son corps. Donc Allah Azza wa Jalla a envoyé une nuée d'abeilles pour que même dans sa mort, son corps soit respecté et son serment soit respecté. Naam. Après que ces 10 personnes, 11 personnes, si on compte Siba ibn Abd al-Uzza avec eux, ces 11 personnes meurent en quelques instants dans cette série de duels, qu'est-ce qui se passe? L'étendard est par terre. Et on ne le relève pas. Pendant un long moment, il va rester par terre, l'étendard des idolâtres. Plus personne n'ose le prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 11 personnes qui l'ont brandi et ils ont perdu la vie en quelques instants. Et ils ont vu Zubayr ibn al-Awwam qui bondit sur un chameau. Hamza ibn Abd al-Muttalib qui dit à Siba ibn Abd al-Uzza qui était quelqu'un de terrifiant, Siba ibn Abd al-Uzza. Personne n'osait répondre au tête-à-tête avec lui. Il avait toujours gain de cause. C'est Hamza ibn Abd al-Muttalib qui sort et qui l'insulte même en lui rappelant le métier de sa mère, en lui disant « Ibn Muqatta'at al-Budur » puisque sa mère était une exciseuse. Et donc, les idolâtres, il n'y a plus personne qui ose prendre le drapeau, l'étendard. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, l'étendard, il va rester par terre, et on va le laisser pour l'instant l'étendard, on ne parle plus de l'étendard, on ferme la parenthèse de l'étendard, jusqu'au moment où, plus tard, quelqu'un va reprendre l'étendard, mais ça, on en verra plus tard. Pour l'instant, il est par terre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les deux armées s'attaque. Cette série du duel conduit à l'attaque généralisée des deux armées. Et vous avez évidemment les musulmans qui partent positivement dès le début de la bataille. Pourquoi? Parce que tous les duels ont été gagnés par les musulmans. Il n'y a même pas comme à Badr. À Badr, il y a eu trois duels. Les trois duels ont été gagnés par les musulmans, mais il y a quand même un des trois compagnons dans les duels qui a été blessé, qui va finir par mourir des suites de ses blessures. Même s'il a gagné son duel, il a quand même été gravement blessé, il va finir par mourir. Là, il y a, dans ces duels, d'abord il y en a eu plus, il n'y en a pas eu que trois comme à Badr, il y en a eu 11, et aucun d'entre eux n'a été blessé. Et aucun d'entre eux n'a été tué. Tous ils ont été gagnés. Donc, pour le moral, imaginez que pour les musulmans, le moral est... Et ils sont là à répéter les slogans. Leur slogan, c'est quoi? C'est « Amit, Amit ». fais mourir, fais mourir. Les idolâtres, eux, l'étendard, il n'y a plus d'étendard, il est déjà par terre, avant que la bataille allait commencer. Et plus personne n'ose le prendre. Et ils ont vu sous leurs yeux comment les musulmans se battent et comment les leurs, même les plus terrifiants parmi les leurs, se sont fait décimer. Donc ils partent mal, même au niveau du moral. Et donc, ici, en réalité, quand les deux armées vont s'affronter, les musulmans vont tout simplement répéter ce qui s'est passé à la bataille de Badr. Ils vont, malgré qu'ils sont trois fois moins nombreux que les idolâtres, avoir le dessus dès le début. Grâce au duel et par la suite, ce qui va se passer dans cette attaque généralisée des deux armées, ils vont avoir le dessus. Ils vont tellement avoir le dessus que, pas tout de suite, mais on le verra plus tard, les idolâtres vont prendre la fuite. Ils vont tout laisser derrière, ils vont fuir. Pourtant, on sait que les musulmans, ils ont perdu la bataille de Uhud. Mais on sait qu'elle commence comme ça. Comment la situation va se retourner, finalement, ils vont la perdre, ça, on aura le temps d'étudier tout ça plus tard. Mais voyons chose point par point et étape par étape. Ici, les deux camps s'affrontent et les musulmans sont en train d'accomplir une victoire et une sorte de deuxième bataille de Badr. Et on peut le démontrer et l'expliquer en détail à travers des exemples de compagnons qui vont vivre cette situation et qui nous la relatent, et à travers des exemples de compagnons qui vont contribuer à cette victoire et à ce triomphe. Le premier compagnon dont on va parler, c'est Abu Dujana. Radiallahu anhu. Abu Dujana, c'est son surnom. Abu Dujana, radiallahu anhu, c'est son surnom. Et son véritable nom, c'est Simak ibn Kharasha. On a déjà parlé de ce compagnon. Au tout début, avant même le début des duels, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait ? Il avait pris son sabre, son épée, et il avait dit: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ Qui prendra cette épée? Donc c'est l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'offre. Et il dit: qui prendra cette épée avec son droit? Cette épée, elle a un droit sur la personne qui veut la prendre. Qui va oser prendre mon épée pour combattre avec, mais en respectant le droit que cette épée aura sur lui? Qu'est-ce qui nous raconte cette histoire? C'est le compagnon Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Et il dit: moi j'ai dit, Ana ya Rasulallah, moi au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comment dirait-nous, il ne m'a pas calculé. Il a tourné le regard. Comme pour dire, c'est pas pour toi, je cherche quelqu'un d'autre. Il a dit, il a répété: Man ya'khudhu hadha as-sayfa bihaqqihi. Zubayr ibn al-Awwam, il se dit pour la première fois, peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas entendu. Donc il va dire: Ana ya Rasulallah, moi au messager d'Allah. Mais il va tourner le regard, il ne va pas lui donner à Zubayr ibn al-Awwam. Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, il nous dit ensuite, il y a plein de compagnons qui vont réclamer cette épée. Ils veulent avoir l'honneur d'avoir l'épée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, ici aussi, non. Jusqu'à ce que ce soit le compagnon Abu Dujana, Simak ibn Kharasha, qui se lève et qui dit: Ana akhudhuhu bihaqqihi ya Rasulallah, fama haqquhu. Moi je le prends avec le droit que cette épée a sur moi, quel est son droit? Quand on a raconté cette histoire, on ne s'est pas intéressé à savoir pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait plein de volontaires, il ne leur a pas donné aux autres, mais il l'a donné à Abu Dujana. Il peut y avoir plusieurs hypothèses, plusieurs explications. Une des hypothèses, ça peut être que Allah Azza wa Jal, dans une révélation, a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il doit donner cette épée au compagnon Abu Dujana. Donc tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il ne voit pas Abu Dujana se lever, il ne donne pas l'épée. Parce qu'il sait à l'avance qu'il doit la donner à Abu Dujana par une révélation. Ça peut être une hypothèse, Allahu A'lam. C'est possible aussi, parce que les textes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc il y a une autre éventualité, c'est que les textes, ils nous disent, quand on les étudie, ils nous disent qu'il y a eu Zubayr, il dit moi je l'ai réclamé, j'ai dit moi je veux bien. Mais il ne s'est pas posé de question, il n'a pas dit mais c'est quoi son droit? Parce que le prophète il dit qui veut prendre l'épée, mais le prendre avec le droit que cette épée aura sur lui. Et Zubayr radiallahu anhu, il dit moi je le prends. Ah. Ensuite, il y a les autres compagnons, nous on le prend, moi je le prends. Mais dans le texte qui nous sont rapportés, le seul qui a dit ana akhuduhu bi haqqihi et qui demande wa ma haqquhu ya rasulallah, et quel est son droit qu'il aura sur moi, c'est lui. Donc c'est aussi peut-être pour cette éventualité, cette hypothèse, parce que lui il y a une condition et il l'a compris, et donc il dit moi je veux bien apprendre, mais c'est quoi son droit alors, du coup que je sache qu'est-ce que je dois respecter comme condition. Et là le professeur Hassan il va lui dire an alla taqtula bihi musliman wa alla tafirra bihi an kafir, que tu ne l'utilises pour tuer aucun musulman. Et que si un ennemi se présente devant toi alors que tu as cette épée, tu ne fuis devant aucun ennemi alors que tu as cette épée. Quand on a cette épée, on n'a pas le droit de fuir. Ah, si tu prends ton épée et que tu n'as pas d'autre solution que de fuir, fuis. Mais si tu prends mon épée à moi, il n'y a pas de fuite. Hein. C'est ça son droit. Et Abu Dujana, il va le prendre. Il va prendre l'épée. Et il va se pavaner. Il va mettre un bandeau. Et le Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, il dit, on savait que lorsqu'il mettait ce bandeau-là, un bandeau rouge, autour de sa tête, autour de son front, « كَانَ لَا يَضَعُهَا كَانَ لَا يُعَصِّبُ بِهَا رَأْسَهُ إِلَّا لِيَقْتُلْ لِيُقَاتِلْ » Il ne mettait ce bandeau rouge, quand il le mettait, on savait que c'était pour un seul objectif, ah, il allait combattre là. D'habitude, ils combattent. Ah, ils combattent. Voilà qu'il là, attention. Ils savent que quand ils mettent le bandeau rouge, c'est fini. Non. Ajib. Donc, Zubayr ibn al-Awwam, dans une version qui nous est rapportée par Tabari, par al-Bazzar, par al-Bayhaqi, et qui a été authentifiée par al-Haythami, qui a été authentifiée par al-Barzanji, et d'autres, donc c'est une version authentique, il nous dit que le compagnon Zubayr ibn al-Awwam, qui lui aussi, il a répondu à deux duels déjà. Ce n'est pas n'importe qui. Zubayr ibn al-Awwam, c'est lui qui a bondi sur le chameau, qui a fait tomber Ibn Abi Talha et qui l'a tué. Zubayr ibn al-Awwam, il dit « فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَأَنْظُرَنَّ مَا يَصْنَعُ الْيَوْمِ » Il a dit, je me suis dit en moi-même, je vais voir ce qu'il va faire. Il a dit, moi, je me suis mis à observer Abu Dujana dès le début de la bataille pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Parce que je l'ai vu prendre l'épée du professeur Anselm et je l'ai vu mettre ce bandeau. Je veux voir ce qu'il va faire avec tout ça. Il dit, فَقَامَ فَرَأَيْتُهُ لَا يَرْتَفِعُ لَهُ شَيْءٍ إِلَّا هَتَكَهُ وَأَفْرَى بِهِ. Il s'est levé. Il a brandi l'épée que le professeur Hassan lui a offert, et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se mettait debout devant lui, illa hatakahu wa afarabihi. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un, quelque chose qui se mettait debout devant lui, ah, qui était un obstacle, un ennemi, hatakahu. Hatakahu, ça veut dire il l'a tué. Le verbe afra en arabe, on l'utilise pour dire découper. Yani. C'est l'image qu'il nous donne, Zubayr ibn al-Awwam, pour nous décrire la scène qu'il a vécue, qu'il a vue de ses propres yeux. Et quand il se pavane, on avait dit qu'à un moment, il va prendre, quand il va mettre son bandeau, et qu'il va orgueilleusement se pavaner. Et le professeur Hassan va dire, ça c'est une démarche orgueilleuse. Donc normalement c'est haram d'être orgueilleux. Le professeur Hassan va dire, c'est une démarche qu'Allah déteste, sauf dans ce genre de situation. Il y en a, c'est pour montrer à ceux qui veulent les tuer, qui veulent leur mal, aux ennemis, puisqu'on est aux portes de Médine. Hein, si on remet les choses dans le contexte, c'est les idolâtres qui sont venus pour comme il le disait, raser la ville de Médine. Donc ils ne font que se défendre. Et ici, dans ce cas-là, pour, entre guillemets, perturber, troubler les ennemis, il est permis de se montrer orgueilleux, de se montrer fort pour leur faire peur, pour les intimider. Et donc le professeur Hassim a dit, c'est le genre de démarche, celle que Abu Dujana il fait, qui est détestée par Allah, sauf dans ce genre de situation. Et ensuite, Abu Dujana, il va réciter des rimes. Et il va se mettre à dire, donc il a fait un poème, en plus pour l'occasion. Il dit, « Ana alladhi ahadani khalili, wa nahnu bis-safhi lada an-nakhili, alla aquma ad-dahra fil-kayyuli, adribu bi-sayfillahi war-rasuli. » Ça veut dire quoi ?« Ana alladhi ahadani khalili. » C'est moi auprès de qui mon ami proche a pris l'engagement. Il parle de qui ? Il parle du professeur Salem. Quel engagement ? L'engagement de l'épée. Je te donne son épée à condition que tu respectes son droit. C'est ça l'engagement. Donc il dit, c'est moi qui a reçu l'épée, parce qu'il y a eu plein de volontaires et c'est moi qui l'a choisi. Ahadani khalili. Il a pris de moi l'engagement. Wa nahnu bis-safhi lada an-nakhili. Alors que nous étions au pied de la montagne de Uhud, عند النخيل, là où il y a les palmiers. Allah aqoum ad-dahra fi an-nakhili. Il dit, parmi les engagements que j'ai pris, Allah aqoum ad-dahra fi al-kayyuli. C'est que jamais je ne me mettrai debout dans les derniers rangs. C'est qui choisit de se mettre derrière, dans les rangs de derrière ? Celui qui a peur de mourir, celui qui est lâche. Et lui dit, moi je ne me mettrai jamais derrière. En plus j'ai cette épée, moi je serai devant. Et donc il faut l'imaginer qu'il est en train de se pavaner devant, il s'est mis devant, et il est en train de dire tout en se pavanant orgueilleusement, « Ana alladhi ahadani khalili, wa nahnu bis-safhi lada an-nakhili, alla aqoum ad-dahra fil kayyuli. » Jamais je me mettrai derrière moi. Moi, je n'ai pas peur de vous. C'est ça qu'il est en train de dire. « Alla aqoum ad-dahra fil kayyuli, adribu bi-sayfillahi wal-rasuli. » Je frapperai avec l'épée d'Allah et de son messager. Non. Ensuite, Az-Zubayr ibn al-Awwam qui dit, moi je veux voir ce qu'il va faire avec ça. Il dit, faja'ala la yalqa ahadan illa qatala. Et j'ai vu que dès qu'il croisait quelqu'un dans la bataille, frp, c'est fini, yallah, il le décime. وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا الا ذفف به. Il dit, et il y avait parmi les idolâtres, j'ai vu que parmi les idolâtres il y avait un homme qui allait vers nos blessés et il n'en laissait aucun vivant, il les achevait tous. Ça c'est le lâche, ça, celui qui va pas vers celui qui est debout. Il cherche les blessés musulmans qui sont à terre et il les tue. Au lieu d'affronter quelqu'un debout comme lui, non, il affronte les blessés. Il dit, j'ai vu que parmi les idolâtres, il y avait un homme, mais il ne s'intéressait qu'aux blessés. Et il allait les tuer. Il a dit, فَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُ يَدْنُو مِّنْ صَاحِبِهِ. Et en regardant la scène, donc lui, il surveille qui ? Il surveille Abu Dujana, il voit ce qu'il fait. Et en même temps, dans la scène, il voit qu'il y a un idolâtre qui achève les blessés musulmans. Et il dit, et dans la scène, donc il voit que Abu Dujana est occupé à faire son travail, entre guillemets. Smito, l'idolâtre, il est occupé lui aussi à faire sa basse besogne, il achève les blessés musulmans. Et il dit, ils se sont rapprochés, sans le vouloir. Et il a dit, Zubayr ibn Awam, fada'autu an yajma'ahum Allah. J'ai invoqué, j'ai dit, ya Allah, fasse qu'ils se croisent, qu'ils se rencontrent. Parce qu'il voyait qu'Abu Dujana, dès qu'il croisait un de ses ennemis, khlas, il le mettait à terre. Et donc il voulait qu'il arrive à croiser cet homme lâche qui ne s'en prenait qu'aux blessés pour les achever. Il dit, faltaqaya. Et ils se sont croisés. Fakhtalafa darbatayn. Ikhtalafa darbatayn, ça veut dire quoi ? C'est une expression pour dire Et ils se sont interposés en deux coups, dans le sens, ils se sont tous les deux donné un coup, mais personne n'a touché l'autre. Regardez, c'est les deux épées qui se sont touchées. فَاخْتَلَفَا دَرْبَتَيْنِ Pah ! Ils se sont frappés, mais personne n'a touché l'autre. Et ensuite, juste après ça, il dit وَدَرَبَا الْمُشْرِكُ أَبَدُجَانَ فَاتَّقَاهُ بِدَرَقَتِهِ Il dit, et après ça, l'idolâtre, il a repris son épée, donc ils se sont frappés les épées, et ensuite l'idolâtre, il a refrappé Abu Dujana. Et qu'est-ce qu'il a fait Abu Dujana ? Il avait ce qu'on appelle en arabe une daraqa. Daraqa, c'est une sorte de bouclier qui est faite avec du cuir. Du cuir. Et donc il a mis son bouclier pour se défendre. Regardez. Il a mis le premier coup comme l'idolâtre, mais les épées se sont... Et il n'a pas eu le temps de mettre le deuxième coup, il allait recevoir le coup de l'idolâtre, l'idolâtre a été plus rapide, et donc il a mis son bouclier. فَعَضَّتْهُ بِسَيْفِهِ Et le bouclier, entre guillemets, la métaphore qui est prise ici, c'est qu'elle l'a mordu, l'épée de l'idolâtre, c'est-à-dire l'épée de l'idolâtre, elle s'est coincée dans le bouclier. Il n'a pas réussi à reprendre son épée. فَضَرَبَهُ أَبُو دُجَانَ فَقَتَلَ Et donc Abu Dujana, il l'a frappé, il l'a tué. Et donc ça, c'est Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, qui nous raconte, et il nous dit, « ثُمَّ رَأَيْتُ قَدْ حَمَلَ السَّيْفَ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةِ ثُمَّ عَدَلَ السَّيْفَ عَنْهَا فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى Il dit ensuite, « Je l'ai vu prendre. » l'épée et la brandir sur le haut de la tête de Hind bint Utba. On avait dit que Hind bint Utba était venue, qu'elle était à la tête des femmes, etc. Et elle a dit, je l'ai vu aller avec cette épée, qu'il l'a brandie sur la tête de Hind bint Utba. Et qu'au dernier moment, avant de la frapper, finalement, il a retiré son épée et il est parti. Et Zubayr ibn al-Awwam dit, فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى Il a dit, et je me suis dit, Allah et son messager savent mieux. C'est-à-dire, il dit, je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Il allait la frapper, finalement, au dernier moment, il a retiré son épée, il est parti. Il ne lui a rien fait. Ah. Donc il dit, je n'ai pas compris. L'explication, elle est où ? L'explication, elle est dans d'autres versions. Dans la version qui a été authentifiée chez Tabari, chez le Bazar et le Bayhaqi, on nous dit que... Abu Dujana, il a brandi l'épée, فَرَفَعَ السَّيْفَ لِيَضْرِبَهَا Il a brandi son épée pour frapper Hind, pour la frapper. ثُمَّ كَفَّ عَنْهَا Et finalement, il l'a laissé. Il ne l'a pas frappé avec l'épée. Il dit فَقُلْتُ Donc après la bataille, Zubayr ibn Awaym, il dit, et après la bataille, je lui ai demandé. Il dit, je lui ai dit, قُلْتُ لَهُ كُلَّ عَمَلِكَ قَدْ رَأَيْتُ J'ai vu tout ce que tu as fait dans la bataille. أَرَأَيْتَ رَفْعَكَ لِلسَّيْفِ عَنِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ أَنْ أَهْوَيْتَ بِهِ إِلَيْهَا Il dit, mais il y a une chose que tu as faite, je n'ai pas compris. Peux-tu me l'expliquer ? Lorsque tu as pris et brandi ton épée sur la femme, parlant de Hind bint Utba, et que finalement, au dernier moment, tu ne l'as pas frappé, tu es parti. Et tu lui as laissé la vie seule. Pourquoi ? Il lui a dit, « Akramtu sayfa rasulillahi an aqtula bihim ra'a. » J'ai respecté, j'ai voulu trop respecter, je suis trop respectueux envers l'épée que m'a offert le professeur sallam pour l'utiliser pour tuer une femme. Je ne peux pas utiliser l'épée du professeur sallam pour tuer une femme. Pas possible. La question qui se pose, c'est bah, pourquoi il a levé son épée au début. S'il ne veut pas tuer une femme avec, ni frapper une femme avec l'épée du professeur Hassan, pourquoi il, quand même, à un moment il voulait le faire ? Et bien ça nous est dit dans une des versions d'Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, il dit, dans la version qu'il rapporte, que lui-même il explique, le compagnon Abu Dujana, Ibn Ishaq, il nous dit que lui-même nous a expliqué qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire « Qala Abu Dujana, Simak ibn Kharasha. قال أبو دجانة سماك ابن خرشة رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمت له فحملت السيف عليه فولولا فإذا امرأة فأكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. Donc, Abu Dujana nous explique pourquoi il a au début brandi l'épée et finalement il va lui laisser la vie sauve. À Hindu bint Utba. Il dit qu'en fait, Ra'aytu insanan, j'ai vu un homme. J'ai vu une personne, un homme. Yakhmishu an-nasa khamshan. Yakhmishu, si on traduit littéralement, c'est griffé. Mais en fait, qui frappait, qui tue, qui combattait très fortement les hommes, les gens parmi les musulmans, qui faisaient du mal. Et donc lui, Abu Dujana, il n'a pas compris comment cet homme, il arrive à faire autant de mal aux musulmans, et les musulmans, ils ne se défendent pas. Donc il a dit, j'ai brandi mon épée pour nous débarrasser de lui. Et quand je suis arrivé auprès de cette personne et que j'ai brandi l'épée sur lui, cette personne m'a vu arriver avec l'épée, cette personne s'est mise à crier, je me suis rendu compte que c'était une femme. Ce qui expliquait pourquoi les autres musulmans aussi, ils n'osaient pas se défendre devant une femme. Ils ne voulaient pas combattre une femme. Et donc, il a dit, et là je me suis rendu compte que c'était une femme. Et il a dit, « فَأَكْرَمْتُ » سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. Et je respecte trop l'épée du professeur sallam pour l'utiliser pour frapper une femme. Donc ça c'est ce qu'on peut dire avec Abu Dujana radiyallahu anhu. Et c'est pas fini avec Abu Dujana. Là c'est la première partie de la bataille, le début de la bataille. Mais on verra plus tard, Abu Dujana il va continuer et il va arriver au summum du courage et de la bravoure. À quel moment? Plus tard, on verra que le prophète, dans cette bataille, il va être pris en étau par les idolâtres. Imaginez-vous que les idolâtres vont réussir à le faire tomber dans un trou. Ils vont l'attirer dans un trou, ils vont le faire tomber dans ce trou, et il n'y aura qu'une dizaine de compagnons autour de lui, et des dizaines, voire des centaines d'idolâtres autour qui savent que le prophète est dans ce trou, et qui vont donner tout ce qu'ils ont. Et tout ce qu'ils n'ont pas, ils vont le donner dans ce trou pour être sûrs de tuer le prophète. Et les compagnons vont, pour la plupart d'entre eux, donner leur corps pour protéger le professeur Hassan. Et parmi lesquels, Abu Dujana, on le verra, il va donner son dos. Il va protéger le professeur Hassan, mais il va donner son dos pour recevoir les flèches à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, je ne vous donne pas plus de détails, on verra plus tard. Donc ça, c'est le début de la bataille. Comment Abu Dujana, il fait la différence? Et là, on ne parle que d'Abu Dujana. Mais ils sont 700, les musulmans. Là, je vous parle que de la bravoure d'un parmi les 700. On peut citer aussi Hamdala ibn Abi Amir, radiyallahu anhu. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que Hamdala ibn Abi Amir, c'était sa nuit de noces. C'était son mariage. Et il a entendu que l'armée partait pour défendre la ville de Médine parce que les idolâtres étaient arrivés pour assiéger, pour raser la ville de Médine, et il est sorti de chez lui pendant sa nuit de noces. Il a laissé son épouse, il l'a laissé, il est sorti sans même faire ses grandes ablutions. Et il rejoint l'armée. Pourquoi il ne fait pas ses grandes ablutions? Parce qu'il a peur de rater l'armée s'il prend le temps de faire ses grandes ablutions. Donc il rejoint l'armée et il part avec eux. Eh bien, Hamdala ibn Abi Amir va s'illustrer dès le début de la bataille lui aussi, et c'est lui aussi qui fait partie des compagnons qui ont fait la différence dès le début de la bataille, qui vont faire en sorte que cette bataille, en tout cas au début, elle sera gagnée par les musulmans. Hamdala ibn Abi Amir, qui s'est marié, donc il y avait une bonne raison de dire, qui s'est marié cette nuit-là, il y avait une bonne raison de dire, moi, désolé, cette bataille, je ne peux pas participer. Et il avait aussi une bonne raison, même s'il participe à la bataille, de dire, bon, moi, je vais derrière. Hein, parce que, voilà. Non, lui, il va devant. Et non seulement il va devant, et qu'est-ce qu'il fait? Dès le début de la bataille, dès que les deux camps s'interposent, il traverse les rangs des idolâtres à toute vitesse. Il coupe les rangs des idolâtres à toute vitesse. Parce qu'au centre de l'armée des idolâtres, il y a qui? Qui est protégé par les 3000 idolâtres. Au milieu, au centre, il y a Abu Sufyan, le chef des idolâtres. Et lui, Hamdallah ibn Abi Amir, il veut qui? Il veut Abu Sufyan. Et donc, sans que les idolâtres ne le savent pas, ne comprennent pas le plan qui s'est mis dans la tête, Hamdallah ibn Abi Amir. Ils vont le comprendre qu'au dernier moment. Hamdallah ibn Abi Amir, il ne fait attention à aucun idolâtre. Il traverse tout le monde et il court à toute vitesse, tout droit, jusqu'à ce qu'il arrive devant Abu Sufyan. Et quand il se trouve enfin devant Abu Sufyan, qui est sur sa chamelle, le plan de Hamdallah ibn Abi Amir, c'est quoi? L'étendard, on l'a fait tomber. La dernière chose pour achever cette armée et être sûr de gagner, au lieu de se combattre tous, c'est que je prends Abu Sufyan, que je lui règle son compte et qu'on en finisse. Que la bataille elle va se terminer là, s'il règle le compte d'Abu Sufyan. Et donc il arrive sans se faire toucher, sans être blessé, il arrive jusque devant Abu Sufyan. Et donc Abu Sufyan le voit arriver. Évidemment, Abu Sufyan veut se défendre. Hamdallah ibn Abi Amir, il le provoque en duel. Et donc, ce duel va commencer entre lui et Abu Sufyan. Comment va se dérouler ce duel? Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bismillah et tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.